Platon, Phèdre, partie 3. Le discours de Socrate. Phèdre. Que te semble de ce discours, Socrate? N'est-il pas merveilleux à tout égard, notamment pour le style? Socrate. Divin même, camarade, au point que j'en suis transporté. Il est vrai, Phèdre, que tu en es bien un peu la cause, car je te regardais et je voyais tes yeux briller de plaisir en lisant, et persuadé que tu es plus expert que moi dans ces matières, je te suivais, et en te suivant, je me suis laissé gagner à l'exaltation de ta tête divine. Allons, tu veux rire? Rire? Tu crois donc que je ne parle pas sérieusement? Non, Socrate. Mais au nom de Zeus qui préside à l'amitié, dis-moi en toute sincérité, penses-tu qu'il y ait en Grèce un homme capable de traiter le même sujet avec plus de force et d'abondance? Quoi? Faut-il encore que je loue avec toi l'auteur d'avoir dit ce qu'il fallait dire? Ne suffit-il pas de reconnaître que son style est clair, précis et qu'il a minutieusement passé au tour chacune de ses expressions? S'il le faut, je le reconnaîtrai pour te faire plaisir. Car je dois confesser que le mérite du fond a échappé à mon incapacité. Je n'ai fait attention qu'à l'art oratoire. Pour le fond, je ne pensais pas que Lysias lui-même pût en être satisfait. J'ai cru m'apercevoir, Phèdre, peut-être n'en juges-tu pas comme moi, qu'il disait deux ou trois fois la même chose, soit qu'il n'eût pas assez de ressources pour trouver beaucoup à dire sur le même sujet, soit que, peut-être, il n'en eût pas souci. J'ai cru à une gageure de jeune homme qui, pour faire parade de son talent, exprimait les mêmes pensées d'une manière, puis d'une autre, et chaque fois avec une égale maîtrise. Tu n'y penses pas, Socrate? Le grand mérite de l'auteur est justement qu'il n'a omis aucune des idées que comportait le sujet, de sorte qu'on ne pourrait dire ni plus ni mieux que ce qu'il a dit. Sur ce point, je ne puis plus être de ton avis. D'anciens sages des deux sexes, qui ont parlé et écrit sur ce sujet, me convaincraient d'erreur si j'y donnais les mains par complaisance. Qui sont-ils? Où as-tu entendu des discours supérieurs à celui-ci? Je ne peux pas répondre ainsi au pied levé, mais il est certain que j'en ai entendu, soit de la belle Sappho, soit du sage Anacréon, soit même de quelque prosateur. Sur quoi se fonde ma conjecture? C'est, mon bel ami, que mon cœur déborde et que je me sens capable d'affronter la comparaison et de parler autrement et aussi bien. Or, je sais bien qu'aucune de ces idées ne vient de moi car j'ai conscience de mon ignorance. Reste donc sans doute que mes oreilles les ont puisées à d'autres sources, où je m'en suis rempli comme un vase, mais j'ai l'esprit si paresseux que je ne me souviens plus comment ni de qui je les ai reçus. Je suis ravi de ce que tu dis, mon noble ami. Tu peux te dispenser de me dire, en dépit des insistances que je pourrais t'en faire, de qui et comment tu les as reçues. Mais fais ce que tu viens de dire. Engage-toi à prononcer un discours meilleur et non moins étendu que celui du cahier, sans y rien emprunter. Et moi, de mon côté, comme les neuf archontes, je m'engage à offrir à Delphes ma statue en or, grandeur naturelle, et la tienne aussi. Tu es trop bon, Phèdre. Et tu vaux vraiment ton pesant d'or si tu crois que je prétends que Lysias s'est trompé du tout au tout et que je peux opposer des choses nouvelles à celles qu'il a dites. Une pareille prétention serait insoutenable, même avec l'écrivain le plus médiocre. Par exemple, sur le sujet qui nous occupe, penses-tu qu'un orateur qui, en soutenant la thèse qu'il faut favoriser l'ami sans amour plutôt que l'amoureux, omettrait de louer la sagesse des uns, de blâmer la folie de l'autre, chose indispensable à son argumentation, pourrait trouver encore quelque chose à dire. Pour moi, je pense qu'il faut permettre et pardonner à l'orateur de reprendre ses arguments essentiels et que ce qu'il faut louer en ce cas, ce n'est pas l'invention, mais la disposition, tandis que, pour les arguments accessoires et difficiles à trouver, il faut, outre la disposition, louer l'invention. Je souscris à ta demande, car elle me paraît juste. Je t'accorderai donc le droit de t'appuyer sur ce principe que celui qui aime a l'esprit plus malade que celui qui n'aime pas. Mais pour le reste, si tu trouves des arguments plus nombreux et plus forts que Lysias, sans limiter, je ferai dresser ta statue au marteau près de l'offrande des Cispsélides à Olympie. M'as-tu donc pris au sérieux, Phèdre, parce que, pour te taquiner, j'ai attaqué celui que tu aimes, et penses-tu que je vais réellement essayer de faire un discours plus riche d'idées que le chef-d'œuvre de ton ami? Ici, mon ami, c'est à mon tour d'avoir prise sur toi. Il faut absolument que tu parles comme tu pourras. Garde-toi de nous faire jouer la scène banale des comédiens qui se renvoient les railleries, et ne me force pas à répéter tes paroles. Ô Socrate, si je ne connais pas Socrate, je ne me connais plus moi-même. Et il brûlait d'envie de parler, mais il faisait des façons. Mets-toi bien dans la tête que nous ne partirons pas d'ici, que tu n'aies dit ce que tu prétendais avoir dans le cœur. Nous sommes seuls, l'endroit est solitaire, et je suis le plus fort et le plus jeune, à bon entendeur. Salut! N'attends pas qu'on te contraigne. Parle de plein gré. Mais, mon bon ami, ce serait ridicule à moi d'opposer sur le même sujet l'impromptu d'un profane au travail d'un maître consommé. Je t'avertis d'une chose. Cesse de faire des façons avec moi, car ou je me trompe, ou j'ai trouvé le mot qui te fera parler. Alors garde-toi de le dire. Je vais le dire, au contraire. Ce mot est un serment. Je jure. Mais par quel dieu jurer? Par lequel? Tiens! Par ce platane, je jure que si tu ne prononces pas ton discours devant cet arbre même, je ne te montrerai ni ne te rapporterai jamais plus aucun autre discours de personne. Ah, mauvais sujet! Comme tu as su trouver l'infaillible moyen de m'amener à tes fins en me prenant par mon faible pour les discours. Qu'as-tu donc à tergiverser? Rien. Après le serment que tu as fait, le moyen de renoncer à un tel régal? Parle donc! Sais-tu ce que je vais faire? Voyons. Je vais parler voilé, afin de courir ma carrière le plus vite possible et de n'être pas gêné ni confus d'affronter tes regards. Parle seulement, pour le reste, fais comme tu l'entendras.
Venez, muse Lygie, que vous deviez ce surnom à la nature de vos chants ou à la race musicienne des Lygiens, soutenez-moi dans le discours que cet excellent ami me contraint de prononcer, afin que son ami, dont il admirait déjà le talent, lui paraisse à présent plus admirable encore. Il y avait donc un enfant, ou plutôt un jeune adolescent d'une beauté parfaite. Il avait des soupirants en foule, mais l'un d'eux était un rusé. Sans être moins amoureux que les autres, il avait persuadé à l'enfant qu'il n'était pas épris, et, un jour qu'il le sollicitait, il essaya de lui faire croire qu'il fallait accorder ses faveurs à l'ami sans amour plutôt qu'à l'amant passionné. Voici son discours.
« En toute chose, mon enfant, il n'y a qu'une manière de commencer. Quand on veut discuter convenablement, il faut bien comprendre l'objet de la discussion, faute de quoi l'on est condamné à s'égarer complètement. La plupart ne se doutent pas qu'ils ignorent l'essence des choses. Aussi, persuadés qu'ils la connaissent, ils ne s'entendent pas au début de la discussion, et à mesure qu'ils avancent, ils en arrivent naturellement à n'être d'accord ni avec eux-mêmes, ni avec les autres. Évitons, toi et moi, ce que nous reprochons aux autres, et, puisque nous avons à décider s'il vaut mieux devenir l'ami d'un homme sans amour que d'un homme amoureux, établissons d'un commun accord ce qu'est l'amour et quels sont ses effets. Puis, les yeux tournés vers cette définition, rapportons-y toute notre discussion sur les avantages ou les désavantages de l'amour. Tout le monde reconnaît que l'amour est un désir, mais nous savons, d'autre part, que le désir du beau se rencontre aussi chez ceux qui n'aiment point. À quoi donc peut-on discerner celui qui aime de celui qui n'aime pas? Il faut savoir qu'il y a dans chacun de nous deux principes qui nous gouvernent et nous dirigent, et que nous suivons là où ils nous mènent. L'un est le désir inné du plaisir, l'autre l'idée acquise qu'il faut chercher le bien. Ces deux principes tantôt s'accordent, tantôt se combattent en nous, et tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre qui triomphe. Or, quand c'est le goût rationnel du bien qui nous dirige et qui a le dessus, sa domination prend le nom de tempérance. Quand, au contraire, c'est le désir déraisonnable qui nous entraîne au plaisir et règne en nous, sa domination s'appelle intempérance. Mais l'intempérance a beaucoup de noms, car elle admet bien des formes et des espèces, et, quand l'une de ces espèces vient à prédominer dans un homme, c'est son nom qui sert à le qualifier, nom qui n'est ni beau ni enviable. Ainsi, quand le désir de la bonne chair prend le pas sur le bien
et les autres désirs, il s'appelle gourmandise et fait donner le nom de gourmand à celui qui en est possédé. Quand c'est le désir de boire qui règne en maître et subjugue celui qui en est atteint, on sait quel nom il reçoit. Quant aux autres désirs, frères de ceux-là, on sait de quel nom il faut les désigner selon que tel ou tel domine. À quel désir pensais-je en disant tout cela, c'est, je crois, assez facile à discerner maintenant. Mais ce qu'on dit est toujours plus clair que ce qu'on ne dit pas. Je dirais donc que, quand le désir aveugle, maîtrisant le sentiment qui nous pousse vers le bien, se porte vers le plaisir que donne la beauté, et que, fortement renforcé par les désirs de la même famille qui s'adresse à la beauté physique, il devient un penchant irrésistible. Je dirais que ce désir tire son nom de cette force même et s'appelle amour. Mais mon cher Phèdre, ne te semble-t-il pas, comme à moi, que quelque dieu me souffle l'inspiration? En effet, Socrate, tes paroles coulent avec une facilité inusitée.
Silence donc, et prête l'oreille. Car véritablement, ce lieu a quelque chose de divin, et si au cours de mon discours les nymphes m'inspiraient le délire, n'en sois pas étonné. Maintenant déjà, j'approche du ton de dithyrambe.
C'est bien vrai.
C'est toi pourtant qui en es cause. Mais écoute le reste, car l'inspiration pourrait bien s'en aller. C'est l'affaire du dieu. Pour nous, reprenons notre discours à l'enfant.
Ainsi, mon très cher, nous avons déterminé et défini l'objet dont nous avons à discuter. Poursuivons sans perdre de vue notre définition et voyons quel avantage ou désavantage on peut vraisemblablement atteindre de ces complaisances, soit pour un amant, soit pour un poursuivant sans amour. Celui qui est livré à la passion et asservi à la volupté cherchera nécessairement à tirer de celui qu'il aime tout le plaisir possible. Or, un esprit malade trouve son plaisir dans la soumission qu'on a pour lui. Il se choque de ce qui lui est supérieur ou égal. Ainsi, un amant ne se résignera pas à trouver en son ami un supérieur ou un égal. Il travaillera sans cesse à le rabaisser au-dessous de lui. Or, l'ignorant est au-dessous du savant, le lâche au-dessous du brave, l'homme qui ne sait pas parler au-dessous de l'homme éloquent, le lourdeau au-dessous de l'esprit pénétrant. Parmi tant de défauts et d'autres encore qui se forment ou sont innés dans l'âme de son ami, fatalement, l'amant se réjouira des uns et fera naître les autres sous peine d'être privé de son plaisir du moment. Il n'échappera pas non plus à la jalousie, et il interdira à son ami beaucoup de relations utiles qui pourraient faire de lui un homme dans le sens le plus élevé du mot, et il lui causera ainsi un grand préjudice, surtout en le privant de ce qui le rendrait tout à fait sage. Je veux dire la divine philosophie. L'amant l'en détournera nécessairement dans la crainte de s'attirer ses dédains. Enfin, il emploiera tous les moyens pour que son ami reste dans une complète ignorance et n'ait Dieu que pour son amant, et quand l'ami sera au gré de son amant, il lui plaira sans doute beaucoup, mais il se sera fait à lui-même un tort considérable. Ainsi, du point de vue intellectuel, l'amant est un tuteur et un compagnon tout à fait nuisible. Au physique, quelle complexion l'amant cherchera-t-il et quels soins prendra-t-il de celui qu'il possède, lui que la passion contraint à sacrifier le bien au plaisir? C'est ce qu'il faut examiner maintenant. On le verra, cherchant un garçon mou et sans muscles, élevé non en plein soleil mais dans une ombre épaisse, étranger aux mâles fatigues et aux sueurs du travail, accoutumé à un régime délicat et efféminé, paré de couleurs et d'ornements empruntés faute de beauté naturelle, enfin montrant en tout ses goûts la même mollesse. Tout cela saute aux yeux, et ce n'est pas la peine d'insister davantage. Bornons-nous, avant de passer à d'autres considérations, à marquer ce trait général qu'à la guerre et dans les occasions périlleuses, un homme si délicat inspire de l'audace aux ennemis, des craintes à ses amis et à ses amants eux-mêmes. Cela est tellement évident que je n'en parlerai pas davantage. Il nous reste à montrer maintenant si la société et l'influence d'un amant sont profitables ou nuisibles à la fortune de l'aimé. Or, il est clair pour tout le monde, et pour l'amant tout le premier, qu'il désirerait avant tout voir son ami privé de ce qu'il a de plus cher, de plus affectionné, de plus sacré. Il souhaiterait le voir privé de père, de mère, de parents et d'amis, car il les tient pour des gêneurs et des censeurs de son doux commerce. Si le jeune homme est riche en argent ou en autres biens, il n'est plus pour l'amant si facile à séduire, ni, séduit, si facile à manier. De là, il faut conclure que l'amant est jaloux de la richesse de celui qu'il aime et qu'il se réjouit de sa ruine. Il souhaite même que son ami reste sans femme, sans enfant, sans foyer le plus longtemps possible pour jouir le plus longtemps possible de son égoïste plaisir. L'homme est sujet à bien des maux, mais un Dieu a mêlé à la plupart une douceur momentanée. Ainsi, le flatteur est une bête terrible et un grand fléau. Mais la nature lui a prêté un agrément assez délicat. On réprouve comme funeste le commerce des courtisanes, et il y a beaucoup d'autres créatures et de pratiques pareilles qui procurent au moins, pour un jour, un vif plaisir. L'amant, au contraire, n'est pas seulement nuisible, il est encore insupportable à son ami par sa présence continuelle, car comme le dit le vieux proverbe, on ne se plaît qu'avec ceux de son âge. En effet, quand on est du même âge, on est porté au même plaisir, et la conformité des goûts produit l'amitié. Et pourtant, cette amitié même est sujette au dégoût. D'autre part, la contrainte, qui est toujours et pour tous, dit-on, un joug pesant, l'est surtout pour le jeune garçon, d'autant qu'elle s'ajoute à la différence d'âge. Car la compagnie du jeune homme attire à tel point l'amant déjà mûr qu'il ne voudrait le quitter ni jour ni nuit. Sous l'aiguillon d'une passion irrésistible, il poursuit le plaisir toujours nouveau de voir, d'entendre, de toucher, de connaître, par tous les sens l'objet aimé. Et c'est avec délice qu'il s'attache à ses pas pour le servir. Mais quel encouragement, quel plaisir pourra-t-il donner pour l'empêcher d'en venir au comble du dégoût à l'ami qui subit sa présence assidue et qui a sous les yeux une figure vieillie et déflorée et toutes les laideurs qui suivent l'âge, laideurs dont la simple mention est rebutante, et à plus forte raison, le contact effectif auquel il est sans cesse contraint, qui sent qu'on observe jalousement toutes ses démarches, et tous ces entretiens, qui s'entend faire tantôt des compliments hors de propos et hors de mesure, et tantôt des reproches qui sont insoutenables quand son amant est à jeûne, et qui ne sont plus seulement insoutenables, mais infamants lorsqu'il est ivre et que sa franchise ne connaît plus ni borne ni mesure. Nuisible et importun quand il aime, l'amant, dès qu'il n'aime plus, devient infidèle aux promesses qu'il prodiguait pour l'avenir à grand renfort de serments et de prières, car il ne maintenait le fastidieux commerce qu'il avait avec le jeune garçon qu'à grand-peine et par l'appât des biens qu'il faisait espérer. Maintenant qu'il faut s'acquitter, il a changé de maître et de chef, il obéit à la raison et à la sagesse, non plus à l'amour et à la folie. Il est devenu tout autre à l'insu de son bien-aimé. Dès lors, l'un exige le prix de ses complaisances passées et rappelle à son amant ses démarches et ses paroles comme s'il parlait au même homme. L'autre, confus, n'osant pas avouer qu'il a changé et ne sait comment tenir les serments et les promesses qu'il a faites sous l'empire de sa folie d'autrefois, car il a recouvré la raison, il est devenu sage, et il ne voudrait pas, en retombant dans ses errements, ressembler à l'homme qu'il a été et redevenir ce qu'il était autrefois. En conséquence, il devient transfuge et contraint de frustrer celui qu'il a aimé jadis, parce que l'écaille est retournée, de poursuivant, il devient fuyard. Le bien-aimé se voit forcé de le poursuivre. Il s'indigne, il atteste les dieux parce qu'il n'a rien su dès le début. Il n'a pas su qu'il ne fallait jamais accorder ses faveurs à un homme épris et par là même insensé, mais plutôt à un homme sans amour et maître de sa raison, qu'autrefois il s'abandonnait forcément à un homme sans foi, chagrin, jaloux, déplaisant, nuisible à sa fortune, nuisible à sa santé, nuisible surtout au perfectionnement de son âme, laquelle est véritablement et sera toujours la chose du monde la plus précieuse aux yeux des hommes et des dieux. Il faut, mon enfant, méditer ces vérités et savoir que l'amant, loin de lui vouloir du bien, aime l'enfant comme un plat dont il veut se rassasier, et que les amants aiment l'enfant comme les loups aiment l'agneau. Voilà ce que j'avais à dire, Phèdre. Tu ne m'entendras pas dire un mot de plus. Mon discours est fini.